Olivier Chambon, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes psychiatre, vous êtes médecin psychiatre depuis plus de 20 ans, et vous êtes pionnier en France des méthodes de soins comportementales et cognitives pour les patients psychotiques chroniques.
Oui, c'est ça.
Vous avez également créé, en collaboration avec le professeur Michel-Marie Cardine, le premier diplôme universitaire de psychothérapie intégrative, et tout ça à l'université Claude Bernard à Lyon. Alors, avant toute chose, pouvez-vous nous expliquer ce que recouvre ce terme de psychothérapie intégrative ?
Voilà. Alors moi, si vous voulez, au cours de ma carrière, j'ai été formé à plusieurs approches de la psychothérapie. Pour citer les principales, les thérapies comportementales et cognitives, l'approche psychodynamique ou psychanalytique brève, les thérapies familiales et systémiques, l'approche Gestalt, l'hypnose, l'EMDR, enfin, etc. J'en oublie sûrement, mais pour vous dire que je me suis vite aperçu que donc on ne pouvait pas se contenter d'une seule approche appliquée à tous les patients, et qu'il faut au contraire adapter son approche en fonction du type de problématique et de personnalité qu'avaient les patients. Et ça, c'est une approche qu'on appelle intégrative et éclectique, et qui a été beaucoup développée dans les milieux anglo-saxons dans les années 80-90, et que moi j'avais aussi introduit en France en écrivant notamment un livre avec le professeur Marie Cardine sur ces approches, avec même un livre qui s'appelle « Les bases de la psychothérapie » qui parle de ce type de thérapie.
On peut dire c'est plutôt quelque chose d'holistique.
C'est intégratif parce que c'est vrai que ça prend en compte le corps, les comportements, les émotions, les représentations, les rêves, donc c'est assez holistique. Alors il n'y avait pas dans cette approche à l'époque le côté spirituel de la psychothérapie que maintenant j'intègre plus volontiers avec le patient.
D'accord, alors on va y venir un petit peu plus tard dans l'entretien. Si je vous interroge, c'est que vous venez de sortir donc un livre qui s'appelle « La médecine psychédélique, le pouvoir thérapeutique des hallucinogènes ».
Voilà.
Alors, une première question que j'avais envie de vous poser, qu'est-ce qu'un psychédélique selon vos termes et qu'est-ce qu'il n'est pas ?
Alors, avant tout, un psychédélique, on peut le définir comme une substance, on va dire, d'origine soit synthétique, soit naturelle, qui permet d'agrandir l'expérience qu'un individu peut avoir de sa conscience. L'approfondir, à la fois d'avoir accès à des contenus inconscients, comme dans la psychothérapie classique, donc ça facilite beaucoup les psychédéliques, mais aussi à d'autres perceptions qu'on peut appeler des perceptions extrasensorielles ou d'autres mondes qui là sont plutôt correspondent plutôt au versant spirituel ou chamanique de l'utilisation des psychédéliques.
Alors vous êtes dans ce livre qui est quand même une somme, puisque je crois que c'est le premier livre en français qui est une compilation des travaux donc sur les expériences menées avec les psychédéliques, sous contrôle médical, hein, bien souvent, et ce depuis les années 60.
Voilà.
Et donc on apprend que les recherches ont repris depuis les années 90, après 20 ans d'interdiction, à peu près dans tous les pays du monde.
Ouais.
Alors comment et pourquoi ces recherches ont-elles reprises ?
Alors, elles ont reprises déjà parce que, je pense, la furia médiatique qui a eu lieu dans les années 70... a cessé à partir des années 80.
Oui.
Et que donc, si vous voulez, l'attention du public a été, comme moi, tirée sur ces substances, et ce qui a permis ensuite à des chercheurs comme Strassman, Rick Strassman, qui est le premier à avoir réintroduit la recherche dans les années 90 avec la DMT, ce qui a permis donc de pouvoir bénéficier d'un climat un peu plus favorable pour reprendre l'utilisation des psychédéliques, mais cette fois-ci dans une version justement scientifique, en laboratoire ou en clinique, c'est-à-dire loin de la contre-culture qui avait été portée par exemple le LSD dans les années 60-70.
Peut-être vous pouvez nous rappeler un peu cette anecdote, notamment Monsieur Leary, c'est ça, qui avait donc participé aux expériences psychédéliques et qui lui préconisait une ouverture donc de ces substances dans des prises sauvages, hein, c'est ça ?
Pas sauvage pour lui, c'était pas sauvage parce que Timothy Leary est mal connu, hein,
on
le voit souvent comme un énergumène excentrique et en fait c'était un chercheur brillant, hein, qui a commencé par professeur de psychologie à Harvard et qui fait des travaux sur l'analyse transactionnelle remarqués à l'époque, et puis qui a croisé la route de la psilocybine d'abord, puis du LSD ensuite, et qui s'est aperçu d'abord avec un groupe d'amis sélectionnés, puis ensuite en faisant participer ses étudiants, puis ensuite là effectivement en proposant toute la jeunesse d'en prendre pour se libérer des conditionnements sociaux. Donc, au départ, si vous c'était quelqu'un d'assez conventionnel et classique, hein, dans le moule universitaire, et puis qui, avec sa propre expérience du LSD, a découvert toutes les potentialités, vraiment, pour explorer son esprit, pour se libérer donc des conditionnements sociaux, du matérialisme ambiant, et pour accéder à une spiritualité. Mais effectivement, disons que ce qui était possible avec un psychologue de 50, de 40 ans ayant vécu n'était pas possible pour tous les jeunes. C'est-à-dire que Liri proposait aux gens de se libérer, mais ensuite pour tomber dans quoi.
Mmh.
Et souvent, les jeunes qui en prenaient à cette époque-là, faisaient des contextes et des conditions telles que ils se libéraient pas de grand-chose, sinon qu'ils avaient accès à leur inconscient beaucoup trop prématurément, sans assistance, et qu'ils devenaient aliénés par les produits de leur inconscient, si vous voulez, dans ce qu'on appelle les bad trips ou les mauvais voyages. L'idée de Liri était bonne, hein, c'était quand même au départ un humaniste qui voulait le bien de ses compatriotes, mais disons qu'il a pas assez considéré le danger potentiel que pourtant Hoffman, le père du LSD, soulignait, puisqu'il disait dans un cas sur cinq on peut faire un horror trip, c'est-à-dire un bad trip vraiment horrible, et qu'il fallait donc pour cela que le LSD ne soit prescrit que dans des contextes médicalisés, avec assistance, etc.
Bon, on va prendre un exemple concret pour un jeune qui effectivement prend une fois comme ça dans sa vie, dans une période post-adolescente, on va dire, c'est ce qui se passe d'ailleurs beaucoup, hein, encore maintenant dans les rêves parties par exemple,
oui.
Que ce soit avec de l'ecstasy, du LSD ou autre, vous disiez que tout à coup, donc la prise d'une substance hallucinogène, oui, peut amener ou en tout cas induire tout à coup l'ouverture à toute la part d'inconscient.
Voilà.
Que chacun porte, et donc s'il n'y a pas d'assistance, ou en tout cas de repère derrière tout cela, il y a peut-être un risque.
C'est-à-dire même dans, oui, des conditions sauvages, festives, sans intention spirituelle ou thérapeutique, sans préparation pour s'attendre à ce qui va arriver, avec de la musique forte, avec des gens parfois qui autour d'eux ont des comportements un peu agressifs, donc ce qui peut augmenter encore le bad trip. Même dans ces cas-là, hein, il y a seulement, par exemple, au niveau épidémiologique, on dénonce que même dans les cas de gens qui l'utilisent festivement, il y a seulement un cas pour 1000 de ce qu'on appelle de psychose durant plus de 48 heures.
Mmh.
Donc ça veut dire que même dans ces cas-là, les accidents psychologiques n'étaient pas très nombreux quand même. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même beaucoup plus nombreux comparativement à quand ces substances, le LSD ou autres, sont utilisées dans un milieu médical.
Mmh.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le problème ne tient pas trop non plus à la substance, c'est aussi le fait que dans les rêves parties ou autres, souvent, les gens ne consomment pas la substance qu'ils sont censés consommer. C'est-à-dire qu'on remarque, par exemple, que des pilules d'ecstasy qui sont vendues dans des milieux de rêve party ne contiennent parfois aucune trace de MDMA, enfin d'ecstasy, et contiennent des amphétamines, parfois de la kétamine, parfois du LSD. Donc les gens ne savent pas à quelle dose ils ont pris la substance et ne savent pas non plus quelle substance réellement ils ont prise.
Ce qui est d'ailleurs une conséquence peut-être de l'interdiction au niveau étatique.
Une directe, voilà. Il y a une maxime qui est bien connue dans les milieux de psychonautes, comme on dit, c'est que c'est pas les psychiques ne sont pas interdits parce qu'ils sont dangereux, ils sont dangereux parce qu'ils sont interdits. Tout simplement parce qu'en les interdisant comme ça, de manière définitive et stricte, il y a effectivement un milieu underground, il y a effectivement une contrebande, enfin un marché noir qui se développe, et où là, les substances, on ne les connaît pas en fait. Et les gens ne peuvent pas recevoir d'assistance puisqu'ils sont censés ne pas en prendre de ces substances. Le pire, c'est que cette interdiction légale a empêché justement les médecins,
oui,
de poursuivre leurs recherches dans des conditions sécurisées.
Mm-hmm.
Donc cette diabolisation des psychédéliques, ça a eu l'effet vraiment de les rendre beaucoup plus dangereux que ce qu'ils ne sont réellement quand ils sont mis à utiliser.
Suite à la lecture donc de votre livre, on peut dire qu'il existe globalement deux attitudes face aux psychédéliques. Soit une fonction donc curative, beaucoup d'études ont été menées donc notamment dans les années 60 et elles sont poursuivies depuis les années 90 sur la dépression, sur l'alcoolisme, les toxicomanies, également des syndromes de stress post-traumatique. Voilà, et également des douleurs chez les patients cancéreux, ou alors pour des personnes en fin de vie. Donc ça c'est la fonction donc curative que le tout à chacun ne connaît pas forcément. Et, mais il existe également une deuxième attitude qui est plus une fonction, je pense, d'exploration de la conscience,
oui,
en vivant donc une expérience spirituelle, voire mystique, c'est le terme que vous employez. Qu'en pensez-vous?
Alors, de toute façon, il y a une étude qui a été menée par Griffith en 2006, puis qui a été reproduite en 2008, à un an, à deux ans d'intervalle, qui montre que deux tiers des sujets, donc, qui proviennent quand même d'un milieu donc déjà préparé aux expériences spirituelles, hein, des gens qui ont une pratique spirituelle sans substance,
oui,
dans la vie quotidienne, bien intégrée à leur fonctionnement. Et bien, deux tiers des personnes qui prennent, là c'était de la psilocybine, hein, donc ce qui provient des champignons dits hallucinogènes, donc deux tiers des sujets font une expérience mystique.
Oui.
Et que cette expérience, ils la jugent ensuite à distance, à un mois, six mois, puis ensuite un an et demi après, comme une des cinq expériences les plus positives, les plus productives de leur vie.
Mmh.
Donc vous voyez, ça veut dire que dans de bonnes conditions, un certain nombre de gens peuvent quand même accéder à une expérience spirituelle forte, marquante, mais dans le bon sens du terme, qui influence, parce qu'ensuite ils ont été évalués au niveau de leur comportement social, de leur adaptation au travail, etc. Et tous, vous voyez leurs notes s'améliorer après cette expérience unique, parce que c'était une seule prise de psilocybine. Donc vous voyez le risque de toxicomanie, entre guillemets, qui n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de dépendance physique avec les psychédéliques.
Oui, ça vous insistez beaucoup
et
dessus.
Le risque même de dépendance psychologique est faible, même très faible, dans de bonnes conditions.
Contrairement d'ailleurs, peut le rappeler, par exemple à la cigarette ou à l'alcool. Hein.
Ah ben bien sûr, oui. Oui, pour vous donner un exemple de toxicité, chaque année aux États-Unis, il y a 440 000 personnes donc, qui meurent de manière directe ou indirecte liées au tabac. Mmh. Il y en a 75 000 qui meurent liés à l'alcool, et il y en a entre 1 et 0 COLSD. Vous voyez ? Donc c'est quand même, on n'est pas dans la même catégorie quoi, avec des drogues réelles, c'est-à-dire qu'il y a une dépendance comme le tabac et l'alcool, et avec les psychédéliques.
Malgré donc les effets positifs hein, qui sont constatés par les chercheurs depuis les années 60, oui. Même un peu avant, ceux-ci ne sont toujours pas donc légalisés ni même dépénalisés, sauf dans quelques cas bien particuliers, peut-être vous allez nous en parler, sauf effectivement donc voilà dans certains pays et sous contrôle de l'État par exemple, je crois que c'est en Amérique du Sud.
Oui.
Voilà, vous allez peut-être nous en parler un petit peu. Alors selon vous, quels sont les freins de cette interdiction qui existe encore d'ailleurs en France ou en Europe, dans certains pays d'Europe?
Oui. Alors c'est une question un peu délicate parce que je suis pas sociologue et puis ça fait toujours un peu conspirationniste ou parano de vouloir mêler les médias, les hommes politiques, même pourquoi pas la religion ou l'industrie pharmaceutique ou tous ceux qui ont quelque chose à vendre aux gens pour bien les conditionner et limiter leur liberté de conscience. Donc ça fait toujours un peu, vous voyez, parler comme ça. Mais on peut dire quand même qu'il y a de nombreuses racines à cette interdiction. La première est souvent une réaction aussi politique, on peut appeler ça conservatrice, réactionnaire, qui n'aime pas trop que les gens puissent vivre des expériences non normées ou inquiétantes, comme les toutes nouveautés. Mais il y a aussi beaucoup l'influence des milieux pharmaceutiques, parce que si vous voyez tous ces produits qui sont des psychotropes puissants, qui sont les psychotropes les plus puissants qui puissent exister, ne serait pas source de revenus pour l'industrie pharmaceutique. Parce que la plupart d'entre eux, ils ne sont pas brevetables, si vous voulez.
Oui.
Ils ne peuvent pas être utilisés dans un monopole par un laboratoire pour traiter les gens. Je vous parle par exemple de l'ibogaïne, qui est un excellent médicament donc contre la toxicomanie à l'héroïne. C'est d'un arbuste africain, qui est utilisé donc traditionnellement par ce qu'on appelle les nganga, les chamans africains, pour des tas de maladies physiques ou psychologiques dans ces pays. Mais ce qui est important, c'est que donc l'ibogaïne a été vraiment, on a montré qu'elle était efficace, et les laboratoires n'ont jamais voulu la développer, si vous voulez, parce qu'ils avaient déjà des médicaments, méthadone, Subutex, etc., qui sont des médicaments de substitution, qui ne sont pas des médicaments curatifs en fait, mais pour lesquels ils avaient dépensé des centaines de millions de dollars ou d'euros. Il y a des chercheurs aussi dans les laboratoires qui ont passé toute leur vie, qui ont édifié toute leur carrière à trouver ces autres substances, et là, tout d'un coup, dire ben non, on a d'autres substances qui sont bien meilleures que les vôtres, vous ne ferez aucun profit avec, et ben on ne va pas trouver dans l'industrie pharmaceutique, si vous voulez, un relais pour permettre l'étude de ces substances, parce que ça coûte très cher des études. Des études en phase 3 ou en phase 4 pour les médicaments, ça coûte très cher, et seules les grosses industries pharmaceutiques peuvent se le permettre. Mmh. Alors avec la kétamine, il y a eu des études en phase 3, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, il y a le frein de l'argent. Il y a pour l'instant les équipes de recherche aux États-Unis ou dans des pays européens comme l'Espagne, comme la Suisse, comme aussi en Israël, qui prend partie en Europe, mais ces pays-là donc ont des budgets comme assez serrés. Ils n'ont pas des gros budgets pour faire de la recherche psychédélique. Donc ça, c'est forcément aussi un frein. Les médicaments habituels sont pas logés à la même enseigne que les psychédéliques. Donc il y a cet aspect financier qui entre en jeu dans les psychédéliques. Et puis, ça serait pour les hommes politiques prendre le risque de faire peur à l'opinion publique.
Oui.
Prendre le risque de d'introduire un changement novateur. Or, en ce moment, je pense que, puis même avant, l'ambiance n'est pas tellement à cette prise de risque,
si vous voulez. Mais alors pourtant, justement, donc vous parliez de l'affolement un peu, hein, on va dire, du tout public.
Oui.
C'est vrai qu'il a beaucoup d'idées reçues par rapport aux psychédéliques. Ça, pour certains, ce sont des drogues, pour d'autres, il y a une accoutumance. Enfin bon, tout ça, vous faites sauter un peu, et c'est ça l'intérêt aussi du livre.
Oui.
Vous faites sauter beaucoup d'idées reçues par rapport aux psychédéliques, notamment dans leur aspect positif qu'on connaissait pas forcément, hein, c'est-à-dire thérapeutique. Et donc, vous-même, vous disiez dans ce livre que vous étiez, comme un peu la plupart des scientifiques, sceptique au début, et puis il s'est passé que vous avez défendu donc le point de vue des psychédéliques, sans toutefois en faire l'apologie.
Oui.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour ce changement radical d'attitude? On sent que vous avez vous-même expérimenté peut-être certains produits.
Voilà, vous avez raison d'insister là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement, vous m'auriez parlé il y a 5 ans d'un patient qui prenait du LSD, je me serais dit tout de suite, comme la grande majorité de mes confrères, oulala, c'est un drogué, c'est quelqu'un qui cherche à fuir la réalité. C'est quelqu'un qui va devenir psychotique, etc. Parce que, comme tous mes confrères, j'ai pas été formé. Au cours de nos études médicales et puis ensuite au cours de la spécialisation en psychiatrie, on ne nous parle absolument pas de ces substances. Donc les médecins sont en fait formés comme le public. Et par les médias en fait.
Mm-hmm.
Les médias qui elles sont intéressés, ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a un frein, qui sont intéressés surtout par les trains qui déraillent, surtout par les accidents. Donc ils vont surtout monter en épingle quelques incidents liés aux psychédéliques, parce que c'est très spectaculaire, ça fait peur aux gens, et on sait bien que c'est fatigant, mais qu'effectivement, ils ne parleront pas de toutes les expériences qui se passent bien, c'est-à-dire l'immense majorité. Alors, pour revenir à la question qu'on m'a posée, moi, ce qui m'a amené à m'intéresser à ça, c'est d'abord ma formation à l'hypnose et puis à l'EMDR, où j'ai vu le potentiel des états modifiés de conscience pour le soin. Et puis, en m'intéressant donc à tout ce qui est état modifié de conscience, j'ai lu les travaux de Stanislas Grof, notamment un livre qui s'appelle « Quand l'extraordinaire arrive », et dans lequel il parlait de certains produits donc qu'il avait lui-même consommés et qu'il avait amené à développer sa psychologie transpersonnelle. Donc.
Ouais,
j'ai eu l'occasion de me déplacer au Pérou ou dans des pays comme la Hollande, enfin où il est possible, enfin maintenant il ne l'est plus pour la psilocybine, hein, enfin pour les champignons en Inde, mais c'était à l'époque ça l'était. J'ai eu l'occasion d'expérimenter des psychédéliques et j'ai vu vraiment à quel point au niveau spirituel ou bien au niveau de la connaissance de soi ça pouvait être intéressant. Donc j'ai commencé à me documenter sur la littérature aussi pour les patients, qu'est-ce qui avait été fait. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de travaux comme ça qui étaient ignorés, des scientifiques, des médecins, surtout en France, et qui pourtant existaient bel et bien. Donc mon livre, si vous voulez, ne parle pas de mon expérience.
Oui.
Hein, parce que j'ai voulu vraiment me mettre du côté objectif, scientifique, rationnel, et parler des études.
C'est ça.
Que j'ai fait. Mais il est vrai que c'est l'avantage de ce livre, c'est quand même qu'il est fait par un médecin qui a expérimenté.
Qui donne en quelque sorte une caution.
Oui, voilà.
Je pense notamment du livre qu'avait sorti donc Jérémy Narby, Yann Kounen et Vincent Ravalek sur l'ayahuasca.
Oui.
Donc on avait interrogé Yann Kounen à ce sujet.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est la plupart de ces gens-là, enfin Yann Kounen en tout cas est un artiste, Vincent Ravalek c'est un écrivain, et il n'y a que Jérémy Narby qui lui est ethnologue.
Oui.
Mais même lui, on a du mal un peu à percevoir où est-ce qu'il se situe.
Oui.
D'ailleurs, les thèses qu'il a avancées, on en reparlera peut-être un petit peu après, mais ont été un peu discréditées par certains scientifiques.
Oui, remarquez ça, que ce soit discrédité par les scientifiques. Vous savez que moi, dans l'histoire des sciences, c'est chaque fois que quelqu'un propose un changement de modèle, même quand il se révélerait 10, 20, 30 ans après, et qu'il devient finalement quelque chose de reconnu, il y a toujours à ce moment-là une levée de bouclier, des gens qui vont être des détracteurs féroces, et souvent qui reposent sur des bases qui sont contestables elles-mêmes.
Hein. Mm-hmm.
La contestation de Jérémy Narby est contestable elle aussi, quand on regarde les arguments de ces détracteurs.
Mm-hmm. On va en reparler un petit peu après. Mais j'avais une question auparavant,
Donc,
qui ressort un peu des conclusions un peu de votre livre. Hein. C'est que vous-même, vous souhaiteriez créer des structures d'accueil pour vivre des expériences psychédéliques réussies et intégrées et positives.
C'est pas que vous trompez, c'est que là, c'est vraiment, ça serait pour moi presque de l'utopie, mais une utopie qui serait réalisable si on le voulait, bien entendu. Mais ça serait plutôt, moi, si vous voulez, l'objectif premier, c'est de réhabiliter ces médicaments puissants, c'est de permettre de nouveau à des médecins formés et supervisés et surveillés, même si on veut dire, de pouvoir s'en servir pour leurs patients, et de réintroduire dans une sorte de dans le Vital, qui est le livre des médicaments des médecins, de le réintroduire dans une catégorie peut-être spéciale, effectivement. Ce serait sur ordonnance spéciale, carnet à souche, enfin Mais le premier objectif est quand même de les réintroduire dans le champ de la médecine et de la psychiatrie, avant même que de créer des centres d'exploration de la conscience ou des états modifiés de conscience à l'aide des psychédéliques.
Qu'est-ce que ça impliquerait justement dans... Vous parliez de former les nouveaux psychiatres, parce qu'au même titre, vous disiez tout à l'heure, au même titre que les médecins, par exemple, ne sont pas formés à, comment dire, à avoir une expérience pratique et concrète de la mort, puisque c'est quand même ce qui arrive assez souvent dans les hôpitaux. Vous parliez de la non-formation des psychiatres, justement, à ces drogues. Donc, qu'est-ce qui serait bon et judiciable d'intégrer dans la formation de ces psychiatres nouveaux, peut-être, qui vont apparaître?
Alors, déjà, une information sérieuse, dépassionnée, objective, de ce que sont les psychédéliques et de leurs possibilités d'action. Voilà. Ça, déjà, s'il y avait une information, ce serait déjà pas mal. Après, effectivement, le stade suivant, ce serait que les psychiatres puissent expérimenter, comme ça a été dans le cas dans les années 60 avec le LSD, où 100 doses distribuées à tour de bras gratuitement aux psychiatres en formation du LSD pour qu'ils puissent être en empathie avec le vécu de certains de leurs patients psychotiques. Alors à l'époque, c'était ce qu'on appelle des psychotomimétiques. On pensait qu'ils n'étaient capables que d'induire des expériences anormales. Donc c'est pour ça aussi, mais si vous voulez, alors, là, l'étape suivante, donc pour les médecins, ce serait de pouvoir en prendre avec des superviseurs et d'expérimenter et de comprendre sur eux-mêmes et par eux-mêmes le potentiel thérapeutique de ces substances.